Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Sensible à la fiction, aujourd'hui Pompidou en mai, une émission proposée par Christophe Barreur, écrite par Laurent Martin, réalisée par Sophie Haute-Picon. Au début de l'année 1968, comme l'écrit à l'époque Pierre Vianson-Ponté dans le journal Le Monde, la France s'ennuie, oui, c'est une France gaulliste, corsetée. Et de fait, personne ne peut prévoir ce qui va se passer quelques mois plus tard, et encore moins que la fin du règne du général de Gaulle est en marche. Georges Pompidou dirige alors son quatrième gouvernement. Il est Premier ministre depuis avril 1962. Il sait que sa majorité commence à se diviser, que l'opposition serre les rangs. Pourtant, ce n'est pas une fronde parlementaire qui va le faire vaciller et faire trembler le régime. Non, c'est une véritable émeute populaire que personne n'a vu venir. Tout commence, durant les premiers mois de 68, par des manifestations estudiantines qui vont avoir de plus en plus d'ampleur. Mais en dépit de cela, la classe politique et les Français ne semblent pas particulièrement émus par les cris venus des universités. Pour sa part, Georges Pompidou est encore très populaire. Mais rapidement, la situation va dégénérer. Une première nuit d'émeute a lieu dans le quartier latin la nuit du 3 au 4 mai. La réplique, relativement ferme de la police et de la justice, va amplifier le mécontentement et provoquer la fermeture de la Sorbonne. Si les syndicats et les hommes politiques de gauche sont encore sur la réserve, les Parisiens soutiennent plutôt les jeunes insurgés. Alors qu'il est en voyage en Afghanistan le 10 mai, Georges Pompidou apprend que la situation s'aggrave. Son directeur de cabinet à Matignon, Michel Jobert, l'invite à rentrer rapidement. Dès son retour, le Premier ministre s'oppose au général de Gaulle qui demande la fermeté. Pompidou, au contraire, propose la conciliation. Il fait rouvrir la Sorbonne et s'engage dans des discussions avec les syndicats. Mais rien n'y fait. Le 13 mai, un flot humain se déverse dans Paris. Une grande manifestation réunit pour la première fois les étudiants, les syndicats et toute la gauche. Les usines commencent alors à débrayer. Lentement, les paralysies et la grève générale, s'installent. Pour le gouvernement et son chef, la situation devient explosive, d'autant qu'au Parlement, il échappe de justesse le 22 mai à une motion de censure de la gauche, soutenue par les libéraux et certains gaullistes. C'est alors qu'a lieu l'un des épisodes les plus étranges de la Ve République, la disparition du général de Gaulle. Pour poursuivre notre enquête autour de la personnalité et du parcours politique de Georges Pompidou, nous recevrons, après la fiction, Sabrina Tricot, agrégée docteur en histoire, auteur du livre intitulé « Pompidou et mai 1968 », co-dirigé avec Bernard Lachaise.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Pompidou en mai, de Laurent Martin. Mercredi 29 mai 1968, bureau de Georges Pompidou à Matignon, 9h30.
Jusqu'au renversement du régime et à la création d'un système socialiste en France.
Certains syndicats...
Bonjour Georges, j'ai entendu la radio. Tu vas bien?
J'ai mal dormi.
Tu n'es pas rentré chez toi?
Non, j'ai dormi ici. Et compte tenu de la situation, je coucherai quelque temps à Matignon. Et qu'est-ce qu'on a?
Une note de la DST. Cohn-Bendit est revenu en France.
Déjà? Comment a-t-il fait?
Il s'est teint les cheveux, personne ne l'a reconnu, il s'est caché dans le coffre d'une voiture.
Oh, c'est très malin. Oui?
Bonjour, Juliet.
Bonjour, Jobert, ça va?
Oui, non. Le Conseil des ministres est annulé.
Comment ça? J'allais justement me rendre à l'Élysée.
Il est reporté, sans doute à demain. Le président part pour Colombey.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas?
Aucune idée.
Merci, Jobert. C'est vraiment pas le moment. Passez-moi à l'Élysée, s'il vous plaît. Oui, le président. J'attends. On n'annule pas un conseil des ministres une heure avant qu'il ne commence.
C'est de Gaulle.
Surtout pour aller prendre l'heure. Oui? Oui, je prends. Oui. Bonjour, mon général. Non, je ne comprends pas. Oui. Certainement. J'insiste, ce départ m'inquiète. Demain, oui, absolument. Oui? Oui? Merci, mon général.
Alors?
Il a besoin de 24 heures de solitude et de campagne.
Vraiment?
C'est ce qu'il a dit.
Tu es bizarre. Que se passe-t-il?
Il m'a dit qu'il était vieux, que j'étais jeune, que j'étais l'avenir.
Il n'a pas tort.
Il a raccroché en disant « Au revoir, je vous embrasse ».
Étrange.
N'est-ce pas ? Je vous embrasse. Tu imagines le général m'embrasser, même métaphoriquement ? Oui, Jobert ?
Les ministres qui étaient déjà arrivés rentrent chez eux. Le général va quitter l'Élysée avec son épouse dans les minutes qui viennent.
Oui, je sais, je viens de lui parler.
J'ai eu Focard. Lui ne sait rien. Il a croisé Boissieu ce matin. En insistant un peu, Focard a appris que le général partait sans rien dire à personne, juste avec sa famille.
Si Focard n'est pas au courant, personne ne l'est.
D'après lui, Boissieu avait l'air inquiet.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
De Gaulle est à côté de la plaque. Son analyse du désordre est trop vague et ses discours n'ont plus aucun effet. Pour répondre aux doutes d'une France qui gronde et s'agite, il est juste capable de proposer un référendum sans intérêt sur la participation.
On réclame de plus en plus sa démission.
De Gaulle nous fait une crise. La tentation du départ le reprend.
Ce n'est pas le moment. Le prestige du général reste un élément essentiel du pouvoir. On ne peut pas se permettre une vacance. Je n'arrive pas à faire valider les accords de Grenelle. La CGT ne contrôle plus ses troupes. Le pays est fatigué du désordre. J'ai besoin de lui.
La majorité des Français comprend votre action.
Les Français, peut-être, mais pas le Parlement. Je n'ai toujours pas digéré la motion de censure du 22 mai. La petite trahison de nos amis libéraux risque de se renouveler. Sans De Gaulle, d'autres vont me lâcher. Je les vois déjà venir renifler mon cadavre.
Il faudrait une dissolution pour remettre tout à plat.
Si De Gaulle part, le président du Sénat assurera l'intérim.
Monnerville ne dissoudra pas l'Assemblée. Monnerville me déteste. Il ne fera rien pour m'aider.
Légalement, il ne peut pas faire grand-chose.
Il appellera Mendès France, j'en suis sûr. Il tentera de me faire remplacer. Même Mitterrand veut Mendès. Et que fera Mendès, selon vous, Jobert ?
Je n'en sais vraiment rien. Même si j'ai travaillé pour lui, je suis incapable de savoir ce qu'il fera. La situation est inhabituelle. Je ne suis pas certain qu'il acceptera.
Il faut trouver une solution.
Il faut sonder les parlementaires.
Le Parlement ne sert plus à rien. Les ministres ne servent plus à rien. Le parti ne sert plus à rien. Même le général, s'il se cache, ne sert plus à rien. Le régime est menacé, je vous assure. Tout ne repose plus que sur moi. J'en ai bien peur.
Vous voulez que j'annule le repas de midi ?
Pourquoi annuler le déjeuner de fiançailles de mon fils ? Non, non, je serai présent.
Mercredi 29 mai 1968. Bureau de Pierre Juillet à Matignon. 13h.
Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? J'allais passer à table.
Focard veut te dire deux mots.
Bonjour, Georges.
Bonjour, Focard.
J'ai reçu un coup de téléphone inquiétant de Boissieu. Je suis venu aussitôt. De Gaulle n'est pas à Colombey.
Il est où ?
Personne ne le sait.
Tu me dis que personne ne sait réellement où se trouve le président de la République pendant que le pays sombre dans le chaos ?
C'est exact.
Je vois. Heureusement pour l'État que l'idée de partir en vacances ne m'est pas non plus venue au petit déjeuner. Pierre, s'il te plaît, appelle Mesmer. Il doit savoir quelque chose. Si le ministre de la Défense ne sait rien, on peut craindre le pire.
Oui.
Je ne comprends pas.
Moi non plus.
Ce matin, je l'ai trouvé étrange. J'imaginais une crise de confiance, mais de là à penser qu'il allait partir et disparaître sans rien dire...
Il n'a pas disparu. Personne ne sait où il est.
Quelle est la différence ?
Tu as raison.
Dis-moi la vérité, Focard. Il te raconte tout. Qu'est-ce qu'il fait, le général ?
Aucune idée. Je t'assure. Je sais qu'il avait l'air fatigué, qu'il voulait se reposer un jour ou deux. C'est un vieil homme, ne l'oublie pas.
Il faut combien de temps pour arriver à Colombey ?
Pas plus de 2 heures en hélicoptère.
Il aurait dû y être avant midi. Il a donc changé de destination. Pour où ? Pas de plan de vol déposé ?
Jamais. C'est un engin militaire. Je sais juste qu'il est parti d'ici les Moulineaux avec sa suite.
Confirmé ?
Oui.
J'informe le Premier ministre et j'étais en courant.
C'est vrai que le président a disparu ?
Les nouvelles vont vite, Jobert. Oui, c'est vrai.
Messieurs, je viens de parler à Mesmer. Morin, le chef d'état-major, vient de lui apprendre que l'hélicoptère présidentiel avait disparu. Il a fait le plein à Saint-Dizier, mais il ne s'est pas posé à Colombey. Vol en bas, il a été perdu par les radars.
Un accident, mon Dieu, mais ce serait terrible.
En effet.
On ne panique pas. Pour le moment, il n'a été perdu que par les radars.
Et par le gouvernement.
Je suis d'accord, on ne panique pas.
Jobert, vous vous renseignez. On doit tout faire pour retrouver la trace du général, au plus vite. Mettez la pression sur Mesmer, il n'a peut-être pas tout dit.
Tout de suite.
On prévient qui ?
On ne prévient personne, Pierre. Quelqu'un a une cigarette ?
Des gitanes.
Oui, ça ira. Dès que le pays va apprendre la nouvelle du départ et de la disparition du général, ça va être terrible à gérer.
L'important, c'est la continuité du pouvoir.
Juillet a raison.
Il faut montrer qu'il y a toujours quelqu'un à la tête de l'État. Toi, Georges.
Moi, bien sûr. Qui d'autre ?
J'appelle son veille.
Je retourne à l'Élysée pour préparer le terrain.
Qu'est-ce que tu entends par préparer le terrain, Focard ?
C'est Pierre.
Je dois en parler à certaines
Georges
personnes.
Georges a besoin de toi.
Il faut envisager le pire, tu comprends ?
Oui.
C'est encore moi. L'AFP vient de téléphoner. Ils veulent savoir ce que l'on sait de la disparition du général.
Déjà ?
Parfois, j'ai l'impression que les journalistes sont plus au courant que nous des affaires secrètes de l'État.
Lorsque l'information parviendra aux rédactions, la panique va s'ajouter au désordre.
Georges, il faut que tu prennes la main fermement.
Comment ?
En t'imposant comme le capitaine naturel d'un pays à la dérive.
J'ai déjà du mal à m'imposer auprès des barons du parti et de nos amis. Tu as vu comme les couloirs sont déserts en ce moment ? J'ai l'impression qu'on me fuit.
Il faut forcer le destin. Sers-toi du peuple, puisque les élus te font défaut.
C'est plus facile à dire qu'à faire.
J'ai peut-être une solution.
On t'écoute, Focard.
Ce qui est certain, c'est que Juillet a raison. Je ne vois que toi pour éviter que les socialo-communistes ne profitent de la situation.
Ils en profitent déjà. La CGT a appelé à manifester.
Ce n'est pas contre le Premier ministre, c'est contre De Gaulle.
Tu sais que nous sommes prêts. La grande manifestation du 13 mai que nous avons annulée, nous pouvons la réactiver rapidement.
Ça doit être son veille. Oui ?
Je vous interromps ?
Non, au contraire.
C'est confirmé ?
Oui. Le général est à l'heure actuelle introuvable. On cherche une solution.
Bon, je vous laisse. Je retourne à mon bureau. Mes secrétaires doivent devenir folles.
Continue, Focard.
J'évoquais la manifestation du 13.
Ah oui.
On peut réactiver nos réseaux et notre organisation pour une manifestation populaire de grande ampleur.
Ce qui est certain, c'est que depuis 15 jours, le pays ne travaille plus. L'inquiétude monte. Mais nous avons la population avec nous.
Pas toutes. Il y a quand même une grève générale.
Ne crois pas ça. Les gens en ont marre. Ils ne tiennent plus. Ils veulent manifester leur légitime colère.
Mais comment on fait ? Le pays est bloqué. Il n'y a plus de transport, plus d'essence. On ne contrôle plus les médias.
On imprime et on distribue des tracts en urgence. On appelle tout le monde. Nous avons un parti et des militants avec nous. Le point important, c'est que nos amis du service d'action civique sont disponibles pour nous aider.
On contrôle encore les ministères. Donnez-moi des transports de l'armée et je vous fais monter des dizaines de milliers de sympathisants en place de la Concorde en 24 heures.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Je suis partagé. D'un côté, on ne peut pas offrir le pouvoir à Mendès France ou à Mitterrand. De l'autre, je donne l'impression de chercher à rester coûte que coûte.
Tes doutes t'honorent, mais nous sommes aux affaires et nous avons des responsabilités. Le général est absent. Tu dois le suppléer. C'est un peu l'esprit de la Constitution, non ?
L'esprit de la Constitution, c'est qu'on sacrifie le Premier ministre pour sauver le président, Focard, pas l'inverse.
La situation est particulière. Tu connais mon attachement au général.
Et le mien ?
Bon, d'accord.
Est-ce que j'appelle Poujade ?
Oui, tu peux y aller.
On coordonne tout ça. Moi à l'Élysée et son veille à Matignon. On lâche ce qu'on peut lâcher pour calmer les manifestants. On ne fait pas de provocation inutile pour qu'ils nous laissent tranquilles 24 heures. Et on commence à téléphoner à tous nos relais en province.
Bien, bien.
Allons-y.
Je n'aime pas me laisser conduire par les événements.
As-tu le choix ?
On a toujours le choix. Focard m'inquiète.
Il inquiète tout le monde.
Il n'y a pas plus fidèle et plus dévoué au général. Et d'un seul coup, il s'est rangé derrière moi, sans résistance.
Focard est un pragmatique avant tout. C'est bien pour toi.
Sans lui et son veille, je ne peux pas réussir, tu as raison.
C'est un tournant. Le général, par son inaction, t'a laissé seul à la manœuvre. Tout peut tourner à ton avantage. Qu'importe ce qui lui est arrivé.
Si la manifestation de soutien qu'on organise ne réunit que 5000 personnes place de la Concorde, on va être ridicule.
Si elle en réunit 10 fois plus, ce sera un succès. Ton succès.
Oui, c'est moi. Morin vient d'appeler Mesmer. De Gaulle est retrouvé. Il est à Baden-Baden.
Baden-Baden. Que fait De Gaulle en Allemagne ?
Aucune idée.
Je suppose qu'il n'est pas allé y prendre les eaux.
Non, mais il y a le quartier général des forces françaises.
Jobert, appelez le général Massu. Demandez-lui de confirmer la présence de De Gaulle.
Bien.
Ce n'était donc pas un accident.
Tant mieux.
Ou tant pis.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Est-ce qu'il est déjà arrivé dans les annales de la République que le chef de l'État quitte le territoire national sans que le Premier ministre en soit informé, sans que son proche entourage sache ce qu'il est devenu ?
Non. Mais ça change tout.
Ça ne change rien. Tu te retrouves quand même seul aux commandes de l'État. Oui ?
C'est moi. C'est confirmé par Massu. Il est bien avec De Gaulle.
Qu'est-ce qu'il a dit ?
Que le général était fatigué.
Parce que je ne le suis pas, moi. Pendant que le général s'enferme dans son palais, pendant que les ministres se cachent, pendant que l'État se disloque, je veille jour et nuit. S'il y a quelqu'un qui doit être fatigué en ce moment, c'est bien moi.
De Gaulle pense que tout est foutu, que les communistes paralysent le pays, qu'il ne commande plus rien. Alors il prend la fuite. S'il planque sa femme et ses enfants en Allemagne, ce n'est pas pour rien. Il craint quelque chose, il envisage le pire.
Un instant de défaillance ?
Ou un plan mûrement établi de longue date.
Qu'est-ce qu'il aurait voulu faire ?
Un exil à l'étranger. C'est sa spécialité, non ?
On ne va pas comparer la France de 1968 à la France de 1940.
Boissieu n'était même pas au courant. Il attendait comme un imbécile son beau-père à Colombey pendant que celui-ci poursuivait sa route.
Pourquoi Baden-Baden ?
Pour s'assurer de la fidélité de l'armée.
Personne n'a jamais douté de la fidélité de l'armée.
Vous pensez...
Un coup d'État ?
Non. L'article 16.
Les pleins pouvoirs ?
Pourquoi pas, Jobert ? Un bon discours sur la menace qui pèse sur la France, le soutien silencieux de l'armée, et le tour est joué. Mais croyez-moi, malgré la situation, on ne va pas s'asseoir sur l'état de droit et confier le pouvoir aux militaires.
De Gaulle est un militaire.
De Gaulle m'emmerde, et aujourd'hui particulièrement.
Alors, prends le pouvoir à ton compte. Il y a un vide politique intolérable. Tu ne dois pas laisser le chaos s'installer, ni ouvrir la porte à ceux qui cherchent à exploiter la situation. Si De Gaulle ne revient pas, il nous faut une porte de sortie.
Eh bien, y réfléchir, je pense que De Gaulle va se démettre. J'en suis même certain. Finalement, c'est comme ça que j'interprète ce qu'il m'a dit ce matin.
Il y aura donc des élections présidentielles.
Mitterrand pense la même chose. Il va annoncer sa candidature.
Il faut que tu sois candidat et très vite. Il faut l'annoncer. Le général est parti, tu te débrouilles. Soigne ton opinion, encourage la manifestation populaire, parle aux députés. Ton heure arrive, Georges.
Depuis ce matin, en tout cas, un certain suspense s'est créé, Jean-Claude Turgeman, autour des activités du président de la République, et tout a commencé à 10h ce matin.
Plusieurs ministres étaient déjà à l'Élysée pour l'habituel conseil des ministres du mercredi, et puis ce fut la surprise. Le conseil était reporté à demain, jeudi 15 août.
Mercredi 29 mai 1968. Bureau de Georges Pompidou à Matignon. 17h30.
Oui. Oui. Massu confirme. Oui. Merci, Jobert. De Gaulle a quitté l'Allemagne il y a une heure.
Ben, pour où ?
La France, Colombey. Je ne comprends plus rien. Il s'est offert une petite balade touristique en Allemagne et il revient.
De Gaulle revient, mais il a perdu la main.
Massu raconte qu'il a regonflé à bloc le général.
Massu raconte n'importe quoi. Au mieux, De Gaulle annonce son retrait. Au pire, on le force à le faire. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir son départ.
Je ne sais pas.
Mais qu'importe ce que fait le général. S'il renonce, tu es là pour reprendre la main. S'il se maintient, tu l'évinces tranquillement, car tu es celui qui a assuré la continuité de l'État pendant sa défaillance. Quoi qu'il arrive, tu sors gagnant. Le parti t'en sera éternellement reconnaissant.
Mais Giscard et sa clique.
Giscard ne connaît que le rapport de force. Il s'agite parce qu'il te sent fébrile. Si tu es fort, il se soumettra.
Oui ? Non. Non, pas maintenant. C'était Chalandon. Il veut me parler.
Tu vois, c'est le premier à lâcher le général. D'autres vont suivre. Fais-moi confiance.
Je ne veux pas virer le général. Je veux éviter l'anarchie au pays.
L'un ne va pas sans l'autre. Tu as entendu les derniers slogans ? 10 ans, ça suffit. C'est le peuple qui veut virer De Gaulle, pas toi.
Oui. Entre, son veille.
Je reviens d'une réunion rue de Lille. Ça monte. De partout, les échos sont positifs. Je l'avais bien dit. Nos gars veulent de l'action.
De Gaulle a quitté l'Allemagne.
Vraiment ?
Oui, il revient. Il faut peut-être stopper tout.
On ne peut plus reculer. Même s'il revient, la presse ne parle que de son absence. La province s'agite.
La province s'agite depuis longtemps.
Je parle de ceux qui nous soutiennent.
Ils étaient combien à la manifestation de la CGT ?
200 000 ou 300 000. On attend les chiffres de la préfecture. Mais c'était calme. La CGT ne fait pas de surenchère.
Oui ? Jobert.
Mendès va parler. J'ai eu son entourage au téléphone. Il va annoncer qu'il ne refusera pas la responsabilité de conduire un gouvernement de mouvement.
Je m'en doutais.
Faut agir vite. Il peut réussir son coup. Mendès est populaire. Ce sera toi ou lui.
Donnez-moi plus de moyens de transport. Et demain, avec Focard, on vous fait monter toute la Normandie, la Bourgogne et la Picardie sur les Champs-Élysées.
Son veille a raison. Rien ne vaut le soutien populaire.
Que va penser le général ?
Il saura que nous avons agi au mieux.
D'accord. Tu peux contacter les ministères pour réquisitionner ce que tu veux. Mais je te préviens, si c'est un échec, je me désolidarise. Je ne servirai pas de bouc émissaire.
Ne t'en fais pas.
Allons-y.
J'appelle les journalistes amis et nos relais politiques.
Je sens qu'on fait une connerie. Si on force le général à se démettre, il va m'en vouloir à mort.
Le général a le sens de l'histoire. Il va comprendre. Et il va te désigner comme son héritier. Et comme tu n'es pas encore un populaire, tout ira bien.
J'espère. J'espère vraiment.
Mercredi 29 mai 1968. Bureau de Georges Pompidou à Matignon, 18h.
Oui ? Quoi ? Vraiment ? Passez-le-moi. Oui ? Bonsoir, mon général. Comment allez-vous ? Oui ? Oui ? Je comprends. Demain, 15h. Oui ? Bonsoir, mon général. C'était De Gaulle depuis la boisserie. Le Conseil des ministres est convoqué pour demain 15h et il prévoit l'enregistrement d'un message radio diffusé à 16h dans lequel il fera des annonces importantes.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie qu'il revient. Ça signifie qu'il est sûr de lui. Ça signifie surtout que je me suis fait avoir par un vieux militaire de 78 ans. Il a réussi à créer un vide autour de sa personne. Je m'y suis précipité. Je m'y suis cassé la gueule.
Il va te démettre ?
Je ne sais pas encore. Le pire, c'est qu'il pourrait me garder.
Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l'hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université. Et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Je constate que la situation actuelle empêche matériellement qu'il y soit procédé. C'est pourquoi j'en diffère la date. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entend bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France.
Jeudi 30 mai 1968. Bureau de Georges Pompidou à Matignon, 17h.
Le discours est un succès.
Je sais, Pierre. C'est moi qui lui ai imposé les modifications nécessaires.
Au moins, il t'a écouté.
Plus pour longtemps, je pense. Oui ?
La manifestation.
Combien, Jobert ? 50 000 ?
Plus que ça. Pour le moment, ils sont 300 000. Et il en arrive encore de partout. Malraux et d'autres personnalités défilent en tête. Les Champs-Élysées sont à nous. C'est un triomphe. Le discours du général a été un électrochoc. Les gens sont partis hargneux. Ils sont arrivés heureux.
Ah.
Vous semblez déçu, Georges.
Un peu surpris.
Focard et son Veil ont bien travaillé.
Un peu trop bien, même.
Tu ne penses pas?
Ils ont quand même réussi à me faire organiser une manifestation contre mon gré, avec le soutien et la logistique des ministères, ce que de Gaulle lui-même n'aurait pas pu obtenir.
Peut-être, mais c'est une réussite et tout va rentrer dans l'ordre.
L'ordre, sans doute. Que faire maintenant?
Ne vaut-il pas mieux prendre du champ, laisser de Gaulle terminer seul son règne et capitaliser la confiance que tu as acquise ces derniers mois?
Sans votre action, de Gaulle n'aurait pas réussi.
Sans le retour de De Gaulle, j'aurais eu du mal à redresser la situation.
Vous êtes entrés tous les deux en opposition larvée et pourtant, par un étrange paradoxe, vous avez été étroitement complémentaires.
J'ai pourtant été quasi seul à la tête de l'État, seul à juger sereinement les choses. Même si je me suis un peu trompé sur les capacités tactiques du général, je ne peux pas accepter la manière dont il m'a traité. Ce départ est une réussite, mais je vais démissionner.
Tu as encore deux choses à faire avant.
Lesquelles ?
Réapprovisionner les pompes à essence pour que les Parisiens puissent partir en week-end et gagner les élections législatives.
Et ensuite ?
Prends patience. Les Français n'oublieront pas ton rôle.
En tout cas, en cette année 68, le mois de mai finit le 30.
Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter.
C'était Pompidou en mai, de Laurent Martin. Avec Jean-Claude Durand, Georges Pompidou. Olivier Cruvelier, Michel Jobert. Jean-François Perrier, Pierre Juillet. Pascal Collin, Jacques Focard. Stéphane Sestac, Pierre Sonveil. Et la voix de Stéphane Otero. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Ariane Herbet. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Sophie Haute-Picon.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. Institution, well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui Pompidou en mai, notre invitée Sabrina Tricot, historienne, auteure du livre « Les années Pompidou ». Bonjour Sabrina Tricot.
Bonjour.
Vous êtes agrégé docteur en histoire, vous avez travaillé à l'association Georges Pompidou, vous avez écrit et dirigé Pompidou en mai 1968 et Les années Pompidou chez Belin en 2014. Vous avez enseigné à Sciences Po et aujourd'hui vous enseignez au lycée Montesquieu de Mancagny-Pocagne. Alors ce 29 mai 68, en fin de matinée, que se passe-t-il à Matignon quand le général de Gaulle décommande le Conseil des ministres et part pour Colombey? En fait, il disparaît, on ne sait pas immédiatement qu'il va disparaître, mais comment Georges Pompidou réagit-il à ce moment-là?
Bien, déjà, Georges Pompidou a été étonné puisque le général l'a appelé personnellement pour annuler le conseil. Et à la fin de la conversation téléphonique, il lui a dit « Pompidou, je vous embrasse ». Et ce qui a frappé Georges Pompidou, c'est « je vous embrasse ». Il le dit d'ailleurs à ses conseillers « imaginez, De Gaulle m'a dit « je vous embrasse ». Donc, il se doute qu'il se passe quelque chose. Et on met du temps à Matignon à savoir où est le général. Pompidou est quelqu'un d'assez calme, de naturel, mais on sent l'angoisse poindre et les témoignages que des collaborateurs ont pu me faire vont dans ce sens. Il y a une véritable inquiétude sur, d'une part, où il est, mais une fois où on sait où il est parti, pourquoi il est parti? Et que va-t-il se passer?
D'autant plus qu'il faut revenir sur la situation au moment où il part. Réouverture de la Sorbonne le 11 mai, négociation de Grenelle qui s'ouvre le 25, le grand meeting de Charletti le 27 avec le PSU et l'UNEF. Pompidou n'a pas les soutiens espérés au sein de la majorité. Le mouvement dit de mai 68 prend une ampleur considérable. Quelle est la situation de l'exécutif à ce moment-là, au bord du gouffre, au bord de la chute? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent du côté à la fois de l'Élysée et de Matignon?
Eh bien, cette question qui paraît très simple a une réponse qui est en réalité très complexe. Parce que vous touchez là aux querelles de mémoire entre les Pompidoliens et les Gaulliens.
Ah.
Les Pompidoliens vous diront Pompidou a tenu, tout partait à volo, il n'y avait qu'à Matignon que les choses se décidaient. Et puis, du côté gaulien, vous aurez la version inverse, c'est la disparition du général, puis son discours radiodiffusé, qui a permis de renverser la situation. Donc, si on essaye de se placer d'un point de vue purement historique, la situation est en fait tout simplement confuse, et le pouvoir, on peut dire vacille. Mmh. On peut dire vacille, que ce soit à l'Élysée comme à Matignon.
Alors, je cite Georges Pompidou dans le livre d'Éric Roussel. Éric Roussel, l'un des biographes de Pompidou, peut-être le plus connu. Voilà ce que disait Pompidou. « L'hypothèse de cette disparition m'apparaissait comme une catastrophe. Non seulement le prestige du général restait un élément essentiel du pouvoir, mais juridiquement, son retrait me placerait dans une situation inextricable. » Alors quoi? Allons-nous voir Monsieur Monnerville pour assurer l'intérim. Monnerville, c'était le président du Sénat à l'époque, et dans la Constitution de la Cinquième, quand le président est empêché ou s'il meurt, je le rappelle, hein, c'est le président du Sénat qui devient président par intérim. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Alain Poher. Certes, alors je continue Roussel, hein, certes il ne pouvait pas changer de gouvernement, le général de Gaulle, mais je ne pouvais pas non plus dissoudre l'Assemblée, dit Pompidou, l'Assemblée où le climat devenait délétère et où beaucoup de gaullistes, même ministres, parlaient de la nécessité de faire appel à Mendès France ou Edgar Faure. Que nous disent ces mots de Pompidou en ces jours du 29 et 30 mai 68?
Alors, la situation de Pompidou, elle est compliquée. Quand vous parliez de Gaston Monnerville, il faut savoir que depuis 1962, donc depuis la réforme sur l'élection du président au suffrage universel, Pompidou est brouillé avec Monnerville parce que Monnerville a traité le gouvernement et son chef lui-même de forfaiture. Et depuis ce jour, d'ailleurs, Pompidou a refusé de serrer la main à Gaston Monnerville. C'est dire que les relations entre les deux hommes sont tendues. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, la question de la dissolution de l'Assemblée. Pompidou va plus ou moins forcer la main du général pour que l'Assemblée soit dissoute. Et dans cette volonté, il va recevoir le soutien de Jacques Chaban-Delmas, qui va soutenir ce projet. Et c'est ça qui permet un tournant fondamental, puisqu'on revient dans une période électorale, hein, ce qui va permettre au gouvernement de reprendre la main face à la rue et face à la gauche.
Ouais. Alors, ça ne règle pas, pour le coup, ça ne règle pas le problème de Gaulle, parce que Pompidou écrit également « Mon inquiétude immédiatement fut extrême. Je connaissais depuis longtemps les crises psychologiques du général et sa tentation périodique du départ. Est-ce que ça veut dire que le général de Gaulle avait plusieurs fois laissé percer son désir de tout plaquer et que quelque part il avait perdu la main, qu'il ne comprenait pas la jeunesse ?
Qu'il a eu un petit coup de déprime, d'ailleurs je crois que c'est quasiment ce que dit Éric Roussel dans sa biographie sur Charles de Gaulle, cette fois non pas sur Pompidou, c'est une certitude. Il s'est senti déprimé et donc il est parti pour essayer de sans doute ou bien trouver une solution. C'est compliqué ça à savoir. Pompidou, ça savait que le général pouvait avoir des moments de découragement. Quelqu'un comme Jacques Faucard le dit très bien dans le journal de l'Élysée aussi, hein, après les élections législatives de 1967, hein, où la majorité gaulliste l'a emporté de justesse. Le général savait que le pays n'était pas entièrement avec lui, derrière lui. Donc cet aspect, Pompidou le connaît. Après, si vous voulez, le fait qu'il n'ait pas été prévenu a sans doute fait que ça a marché. C'est-à-dire le fait que personne, y compris le Premier ministre, ignore où était le général, a sans doute participé du retournement de l'opinion publique. Il fallait d'une certaine manière que Pompidou partage cette angoisse du départ pour que ça fonctionne.
Donc ce départ, il n'a rien d'irrationnel. Alors à ce moment-là, c'est vraiment une stratégie. Le général de Gaulle est effectivement au pied du mur. Il y a peut-être un sentiment, non pas de panique chez un homme comme ça, mais de se retrouver devant une situation inextricable, faire un coup. Tout était programmé. On est là
je
devant une stratégie.
Je dirais pas que c'est programmé au sens une stratégie, je dirais que c'est un coup, mais un coup politique comme le général en a fait d'autres, de par le passé. Je pense que c'est en ce sens-là. C'est pas forcément une stratégie au sens stratégie militaire construite sur le long terme.
C'est ça. Mais pourquoi Baden-Baden et pourquoi Massu ? On sait ça ?
Bah parce que c'est un militaire, parce qu'il a confiance en Massu, et aussi qu'il veut sans doute s'assurer du soutien de l'armée, au cas où il faudrait faire une sorte de rejeu de mai 58.
Mais 58, pour le coup, sur ce coup d'État démocratique appuyé par l'armée, qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément ?
Je ne peux pas vous dire plus précisément, puisque les intentions du général ne sont guère pénétrables, d'autant plus que c'était quelqu'un qui ne se livrait pas du tout. Je vous rappelle que quand il est parti, même son gendre qui devait le retrouver à Colombey, Christian de Boissieu, ne sait pas où est le général. Donc c'est une forme d'interprétation. Donc on peut supposer qu'il a cherché à obtenir de Massu le soutien de l'armée pour éventuellement une reprise du pouvoir, mais sous quelle forme, c'est difficile à savoir. En tout cas, s'assurer de l'appui de l'armée, au cas où on en viendrait, et ce qui sans doute il ne souhaite pas d'ailleurs, à une situation qui nécessite l'usage de la force.
Bien, on va se retrouver dans un instant pour continuer à explorer cet épisode qu'on a taxé de l'histoire, l'une des histoires les plus étranges de la Ve République, cette disparition, on va pas dire cette fuite, d'ailleurs on va y revenir sur le mot fuite, dans 3 minutes ensemble.
Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant, c'était Yvette Dornaire qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah. Oh yeah. Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regardait Gros Nounours à la télévision. À Nounours il a dit bonne nuit mon bonhomme, il est parti danser le Tcherko Palladium. Oh yeah. Le juge a dit à Jules vous avez tué. Oui j'ai tué ma femme pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Oh yeah.
Sabrina Tricot, nous revenons donc sur le départ du général de Gaulle à Baden-Baden en mai 1968, lorsqu'il se rend auprès du général Massu, en qui il a confiance. Est-ce qu'on peut parler de fuite ?
Oui et non.
Ah.
Une fuite, oui, parce que délibérément, il part. Et comme on le disait tout à l'heure, il a un coup de déprime. Mais le général n'est pas quelqu'un qui fuit. Par nature, il peut avoir la tentation du départ, mais c'est pour mieux revenir.
Ouais.
Donc fuite, non. Disparition, assurément.
Bien, donc on regardera disparition. Alors, cet épisode a altéré considérablement les rapports entre Georges Pompidou et le général de Gaulle. C'était des rapports jusque-là de confiance, depuis que Georges Pompidou était Premier ministre. Là, il y a quelque chose, un contrat de confiance qui se casse.
Ah oui, tout à fait. Ça a profondément, je ne sais pas si on peut dire déçu, mais en tout cas, ça a profondément marqué Georges Pompidou, qui a été oui, je vais dire déçu, que le général ne lui ait pas dit où il allait. Là, vraiment, ça a été pour lui un manque de confiance important qui est sans doute un des premiers points qui les sépare et qui conduit après à la césure en 1969.
Alors, des relations qui ont été alors encore plus altérées en octobre de la même année, avec l'affaire Markovic, une affaire sordide dans laquelle la femme de Georges Pompidou avait été mise en cause tout à fait injustement. Ça avait beaucoup blessé Georges Pompidou qu'on s'attaque à sa femme, et je crois que le général de Gaulle n'avait pas tellement soutenu Georges Pompidou.
Oui, tout à fait. Le divorce est consommé au moment de l'affaire Markovic. Et là, Pompidou, on a beaucoup voulu au général d'avoir été d'une certaine manière condescendant et surtout de ne pas lui avoir dit lui-même. Mmh. Alors que le général en a été informé avant que Georges Pompidou en ait été informé.
Georges Pompidou avait une position qui n'était pas forcément facile au sein des gaullistes, puisque à l'époque ils sont encore très marqués par la guerre, par la résistance. Les barons gaullistes, hein, comme on les appelait, les Sanguinetti, Olivier Guichard, Jacques Chaban-Delmas et d'autres sont des résistants. Georges Pompidou, l'histoire de Georges Pompidou ne s'inscrit pas dans l'histoire de la résistance, des faits d'armes. Est-ce que ça lui donnait un positionnement compliqué à Georges Pompidou au sein des gaullistes, qu'il n'était pas chimiquement pur, car sans titre de gloire de résistance?
Mais là encore, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que une partie des gaullistes pouvait utiliser cet argument, mais en même temps, la proximité de Pompidou avec le général, elle remonte à 44-45. Dans la traversée du désert, Pompidou a servi le général, et il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, il l'a servi à une époque où le retour au pouvoir n'est absolument pas envisageable et pas envisagé. Donc il l'a fait de manière totalement désintéressée. Et c'était un sujet qui l'agaçait au plus haut point. D'ailleurs, il y a, si ma mémoire est bonne, en 72 ou 73, une conférence de presse où on lui pose une question à cet égard. Et il a répondu assez sèchement en disant qu'il n'avait de leçons de gaullisme à recevoir de personne.
Ouais. Alors, est-ce que c'est au cours de ces événements de mai 1968 que Georges Pompidou s'impose aux yeux de ses contemporains comme un chef d'État, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est capable d'être président de la République? Et on sait à quel point dans notre Constitution, dont évidemment le général de Gaulle était un grand défenseur, et Georges Pompidou également, on sait à quel point le président a du pouvoir en France.
Ah oui, ça c'est indéniable. Ça c'est indéniable. Hein. Vous savez que François Mauriac écrivait des bloc-notes. Hein, et dans ces bloc-notes qui ont été publiés, hein, il y en a un qui dit clairement qu'il est apparu, à la faveur des événements de mai, comme un homme d'État. Donc il a acquis cette stature aux yeux de l'opinion publique, et de ce fait, il apparaît comme une solution de rechange aussi.
Hein. Alors, les historiens ont tendance à dissocier le temps de la République dite gaullienne, qui va de 58 à 69, de celui de la France dite pompidolienne, qui elle va de 69 à 1974. Mais 68 est-il à l'origine de cette distinction qu'on peut faire?
Je suis pas sûre que ce soit une bonne distinction. D'abord parce que la France pompidolienne s'inscrit, à mon sens, bien plus dans la continuité que dans la rupture par rapport à la France gaullienne. S'il y a une inflexion, c'est d'une part, comme vous l'avez dit, Pompidou apparaît comme une solution de rechange et comme un homme d'État. Donc l'alternative, moi ou le chaos, d'une certaine manière, est caduque. Et puis aussi parce que elle a permis à Georges Pompidou, même si, si on réfléchit à sa pensée, il y avait des choses qu'il avait déjà anticipées, mais elle a été pour lui une prise de conscience des problèmes d'inadéquation entre la société, la politique, d'un certain nombre de problèmes socio-culturels qui laissera, une fois qu'il sera président, de mettre en œuvre ou de solutionner. Il y a toute une partie, si vous voulez, de ces réformes, non pas qui sont inspirées de mai 68, pas du tout, mais qui sont comme une réponse du pouvoir aux revendications de mai 68.
Pompidou était un pragmatique?
Ah oui, tout à fait. Un grand pragmatique.
Alors, je tiens entre mes mains votre livre. La couverture est superbe. Je vais la décrire parce qu'elle dit beaucoup de choses de la France de ces années-là. Donc c'est une deux chevaux, hein, on est bien d'accord.
Oui.
On a une famille qui part en vacances ou en week-end. Alors on charge les bagages. Il y a une espèce d'insouciance qui se dégage de cette couverture censée représenter ce qu'était la France de ces années-là. Est-ce qu'il y a une forme d'insouciance de la France pompidolienne. Là, je parle de la France, hein, pas de Pompidou.
Oui, oui, j'entends bien. Là encore, la réponse n'est pas simple. Il y a une insouciance, oui et non. Ça dépend de quel point de vue on se place.
Économique, on est dans
alors,
les 30 glorieuses.
Économiquement, voilà. Économiquement, on est indubitablement dans les 30 glorieuses, plein emploi, société d'abondance. Donc, en ce sens-là, oui, c'est la période, justement, de massification du tourisme, de massification de l'enseignement et donc d'une certaine forme de démocratisation. Du point de vue du pouvoir, il faut aussi avoir conscience que c'est une période où on peut énormément donner. Il faut penser que c'est une logique qui est totalement différente de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on augmente les retraites ouvrières, on augmente tous les minimums sociaux, il y en a très peu qui existent à l'époque, mais enfin quelques-uns quand même. Donc on peut aussi distribuer de la croissance.
C'est l'État-providence, y compris pour la droite, qui peut s'en servir parce qu'il y a de quoi le faire. D'accord.
Exactement. Et c'est cette image qu'on a gardée. Mmh. Les années Pompidou sont les années heureuses. Mais du point de vue ensuite du pouvoir, en particulier sur la période début des années 70, ça change, il y a un certain nombre de signaux qui sont au rouge et qui donnent d'ailleurs du souci aux hommes politiques. Et Pompidou l'a dit à plusieurs reprises dans des conférences de presse.
C'est quoi les signaux rouges ?
Eh bien, la croissance commence à diminuer.
Ah oui.
Il y a les prémices du chômage. Je vous rappelle que la NPE a été créée à la fin des années 60 par Jacques Chirac. Mmh. Et il y a une conférence de presse, je crois, de 73, où Pompidou dit « Attention, on arrive à 450 000 chômeurs ». Quand on sera à 800 000, ça deviendra un énorme problème pour l'État.
Et question style, c'est intéressant également. Georges Pompidou est à la fois, il a les deux facettes de ce que peut être l'évolution d'une société moderne et d'un homme politique de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a un côté quand même conservateur. On le voit d'ailleurs par rapport, ne serait-ce que par rapport à Jacques Chaban-Delmas, qui lui est moderne, voire moderniste, qui exaspère Georges Pompidou, une espèce d'ouverture parfois vers la gauche, ça l'exaspère, Pompidou. Et en même temps, il y a le côté chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le guet Paris, la haute couture. C'est-à-dire que à la fois, il est traditionnel, Georges Pompidou, il est aussi très moderne. On connaît son goût pour l'art moderne, notamment. Il y a les deux aspects chez cet homme-là.
Oui, alors, justement, dans mon livre, j'essaye de montrer qu'on fait de ces deux aspects une contradiction qui, à mon sens, n'est qu'apparente. C'est-à-dire que, oui, du point de vue sociétal, il y a certaines évolutions qu'il refuse. Mmh. Et c'est pas du tout contradictoire avec son goût pour l'art contemporain. Je pense que la clé du personnage, et pour comprendre cet aspect à la fois conservateur et à la fois amoureux de l'art contemporain, il faut garder à l'esprit que c'est un humaniste. Et donc c'est un homme qui a un rapport au monde, un rapport à la politique, un rapport à la culture, qui est celui d'un homme de lettres.
Ouais.
Et donc pour lui, il y a une forme de continuité, et c'est pour ça qu'il est en désaccord avec Jacques Chaban-Delmas, il y a une forme de continuité entre la poésie latine et l'art contemporain. C'est-à-dire que pour lui, c'est à chaque fois des traductions du monde dans lequel ils vivent. Et ce qu'il reproche à Jacques Chaban-Delmas sur la nouvelle société en particulier, c'est cette idée qu'on peut faire table rase du passé, qu'on va tout d'un coup, ex nihilo, créer une nouvelle société avec de nouveaux cadres. Pour Pompidou, c'est impensable ça. Ça reviendrait à nier le passé, l'histoire et la culture.
Bien. Alors, dernière chose, quelle trace laisse ce quinquennat ? On a l'impression, jusque pendant les septennats, on se disait, Georges Pompidou, il n'est pas resté très longtemps au pouvoir, on ne peut pas le juger. Bon, en fait, il est resté 5 ans, il est mort en 74, 5 ans. Nos présidents aujourd'hui restent 5 ans. Bref, quelle trace a laissé ce quinquennat qui devient maintenant un mandat normal en termes de temps ?
Elles sont multiples. Je pense qu'une qu'on retient et qui a été à l'actualité il n'y a pas très longtemps, c'est l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun,
oui,
par exemple. Mmh. Ça, c'est une des grandes réformes de son quinquennat. Après, il y a un certain nombre d'évolutions sociales. Alors, c'est encore une question de point de vue. On peut dire, oui, la mensualisation des salaires, par exemple, réforme portée par le gouvernement Chaban-Delmas, dont Pompidou faisait la plus grande réforme sociale depuis le Front Populaire.
Oui.
Mais d'un autre côté, la loi sur l'avortement n'a pas abouti. Donc vous voyez, on retombe dans ces querelles d'héritage avec cette dichotomie conservateur ou contemporain, conservateur ou moderniste.
On va dire les deux, d'accord ?
Les deux, oui, assurément pour
très
moi.
Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci infiniment.
Merci à
Sabrina
vous.
Tricot, je rappelle le titre de votre livre. Bon, tout simplement, Les années Pompidou chez Belin. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Pompidou en mai, une fiction écrite par Laurent Martin, réalisée par Sofiane Picon et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne.